When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle.
C'est non.
Qui vient de me voir, c'est une merde, Noé.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plans.
Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Vive le cinéma!
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, 11e et dernier jour de captivité.
Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais.
C'est vrai, dites, c'est vrai, vous allez me laisser partir?
Eh oui, Nicolas, ça y est,
c'est fini. Je vais pouvoir rentrer chez moi.
Oui, oui. Nicolas.
Je vais pouvoir retrouver mon amoureux et mon chat, qui ne sont pas la même personne, je tiens à le préciser. C'est deux personnes distinctes, même si j'aime mon chat d'amour. On fait peut-être... Simon, pourquoi Simon n'est pas là?
Bah écoute, je sais pas moi.
Il s'est pas réveillé?
Bah je pense que oui. Hein.
Moi je l'ai laissé hier soir à la soirée de la Queer Palme, mais je sais pas s'il est rentré ou pas.
Alors en fait.
Ah bah non, t'es con putain!
Ah! Pff. Alors en fait, techniquement, je suis avec vous. D'un point de vue macrobiotique, c'est exact. Le fait est que je suis en même temps sur le plan astral, quelque part dans un compost.
Et on fait un immense, énorme bisou à Arthur qui, lui, pour le coup, a dû nous quitter de manière un peu précipitée.
Il est déjà rentré sur Paris.
Qui a fait tout de même l'exploit, on peut le noter, de faire un Cannes-Paris après 15 jours de festival dans les pattes, le tout en voiture, qui est une vieille Clio sans climatisation, et surtout d'arriver en vie.
Alors c'est une Twingo, mais c'est pareil. Oui,
bon, c'est encore pire.
C'est encore pire, c'est une Twingo. Bon.
Alors qu'on avait tous Paris sur le fait qu'on doive recruter quelqu'un aujourd'hui.
Et on fait d'énormes bisous à Arthur en tout cas.
Gros bisous.
Et on donne un dernier coup de collier avec le troisième film italien de cette 76e compétition cannoise, le nouveau film d'Alice Rohrwacher, qui est une habituée du festival puisqu'elle a obtenu le Grand Prix pour Les Merveilles en 2014, le prix du scénario pour Heureux comme Lazzaro en 2018. Et obtiendra-t-elle donc cette année un nouveau prix pour La Chimera, film dans lequel on suit un groupe de marginaux dirigé par Arthur, qui est une sorte de grand britannique un peu dégingandé, et doté d'un étrange pouvoir, celui de repérer les endroits où se situent d'anciens tombeaux que le groupe va pouvoir ainsi piller. Sophie, tu as vu ce film d'Alice Rohrwacher. Alors, Rohrwacher oui ou Rohrwacher non?
Rohrwacher, oui.
Oui.
Oui, c'est un grand oui. Par contre, on va mettre les choses tout de suite. On m'avait prévenu, hein, tu m'avais prévenu en amont. La première partie est extrêmement rude en termes de rythme. En plus, je trouve qu'il y a une vraie évolution dans la photo, qui est une évolution qui va de pair avec une narration qui est de plus en plus, dynamique. Il y a quelque chose qui se passe au bout de 30, 35, 40 minutes. Mais toute la première partie, je la trouve assez terne, avec une volonté d'être à mi-chemin entre un espèce de naturalisme visuel et un onirisme un peu félinien.
Ouais. Pas un peu, t'as complètement félinien, mais on y reviendra, vas-y.
Et donc, le début, je m'ennuie. Mais je m'ennuie, en plus, on est la dernière journée vraiment de visionnage. On est tous épuisés et là, un rythme très complexe avec des caractérisations de personnages un petit peu particulières parce que c'est pas tel personnage représente tel archétype narratif ou quoi que ce soit. On est vraiment sur une espèce de troupe un peu vagabonde qui se ressemblent un peu tous, qui sont par contre ce qui est très beau en plus, c'est qu'ils ont tous des physiques un peu atypiques, quelque chose de très touchant, mais ils forment encore une masse un petit peu floue dans les 35 premières minutes. Et après arrivent plus ou moins des éléments, non pas déclencheurs, mais on arrive sur une vraie narration. Il faut savoir que donc ça parle de pilleurs de tombes. En fait, c'est des voleurs d'artefacts étrusque. Et il se trouve que ce personnage, interprété avec brio par Josh O'Connor, apparemment qui jouait dans The Crown, si j'ai pas de bêtises.
Absolument, oui.
En fait, il a des espèces de visions qui sont magnifiquement représentées par une mise en scène complètement on point, c'est-à-dire qu'on a une caméra qui tourne, qui va renverser, qui va créer une espèce de transe, et il va être capable de savoir où sont les tombes étrusques. Quelque chose d'un petit peu mystique, d'un petit peu magique. On est vraiment entre du réalisme pur et dur d'un quotidien complexe, de presque personnes un peu itinérantes, quasi SDF, et leur volonté d'être riches par ce tour de passe-passe qui leur donne accès à des artefacts très chers, du coup. Et après, il y a des questions de morale, et le film s'accélère à ce moment-là. Du moment qu'il y a le personnage d'Italia qui commence à prendre un peu plus de place, qui est interprété par Carole Duart, pour moi, le film m'emporte. C'est-à-dire que là, d'un coup, il devient solaire, mystique, presque flamboyant à certains moments, alors que vraiment, il nous a privés de toute once de vie pendant 35 minutes, et d'un coup, on est dedans. D'un coup, il y a quelque chose qui se passe et il devient solaire et magique. Donc, c'est vrai qu'il est un peu déséquilibré, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher, de nous faire un petit peu trop patienter sur l'arrivée à son cœur. Mais une fois qu'on y est, en effet, on est vraiment pas déçu parce qu'elle devient très généreuse, que ce soit en termes de mise en scène ou de narration, quoi. On est vraiment sur un très, 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 très beau film. Et je crois que c'est la première fois que je vois cette histoire-là. C'est un peu rare, hein. À Cannes, on en bouffe des films, mais là, moi, ces voleurs, ces pilleurs de tombes, je les trouve tous très beaux, tous très beaux.
Oui, c'est un drôle d'objet, ce film d'Alice Rohrwacker, parce que ça fait partie de ces films, on en a parlé plusieurs fois au cours du festival, que moi j'appelle des films à péage ou à ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'accrocher un peu, il faut avoir certaines clés, mais une fois qu'on a ces clés, mais d'une certaine manière, je pense que Dodin Bouffant est un film à ticket d'entrée.
Oui.
Je pense que le Nourri Bilge Ceylan est un film à ticket d'entrée. Bon, bref, mais une fois qu'on les a, et ben d'un seul coup, on rentre et on pénètre dans une expérience de cinéma complètement captivante et passionnante. Donc ça vaut le coup de s'accrocher. Mais c'est vrai que cette première partie de la chimère et une partie qui m'a ennuyé, moi qui vraiment je me suis dit que j'allais mourir d'ennui, qui a même commencé à m'agacer parce que on rentre et donc Alice Rohrwacker commence à poser un peu les jalons de son univers, et c'est des jalons hyper référentiel, c'est-à-dire que c'est de l'hommage au grand cinéma italien. Il y a une scène qui est vraiment quasiment la Strada, où ils arrivent avec une espèce d'assemblage où ils sont tous maquillés, dans une sorte de carnaval avec un magicien, enfin bref, on est vraiment littéralement, on n'est même plus dans l'hommage, on est dans la citation. Et alors évidemment, le film va parler de manière astucieuse de ce qui est enfoui, de ce qu'on va déterrer, des trésors qu'on va aller chercher et qu'on va aller glaner dans le passé, de la transe que ces trésors provoquent chez le héros. Donc on voit bien là l'aspect symbolique et la portée du film par rapport à l'histoire du cinéma italien. Mais moi je suis aussi à un endroit de ma cinéphilie où je me dis, mais à quel moment on va pouvoir sortir de cet effet de citation du grand cinéma italien, de la nouvelle comédie italienne, le film de Nanni Moretti qu'on n'a pas aimé du tout, et aussi un film qui convoque une nouvelle fois l'histoire du cinéma italien, bon, alors, en étant encore plus raté parce que c'est un film sur un film qui est en train de tourner, blablabla. Mais voilà, moi ce début m'a vraiment agacé. Alors que la photo est magnifique et que pourtant il y a une scène d'introduction merveilleuse dans le train.
La scène d'intro est très belle et l'écho qu'elle en fait plus tard, j'en parle, j'ai les frissons.
On a des frissons aussi. Non, et puis cette phrase du contrôleur qui lui dit, parce que Josh O'Connor est en fait en train de dormir, on comprend qu'il sort de prison, qu'il n'est pas lavé, qu'il est en état de clochardisation complet. Et le contrôleur lui dit une phrase un peu cryptique qui lui dit, mais si vous êtes en train de faire un rêve, si vous voyez un rêve, c'est un rêve dont vous ne connaîtrez pas la fin. C'est très joli et ça te dit, ça raconte évidemment quelque chose du film qu'on vous laisse découvrir, mais voilà. Mais donc ça commence bien, ça continue pas bien. Moi, il m'a fallu, alors c'est très rigolo, je n'ai pas reconnu Isabella Rossellini.
Ah, mais pareil, en plus,
je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle joue, vraiment une petite vieille handicapée, enfin dans un fauteuil roulant, dans une maison en ruine, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette maison dans laquelle Josh O'Connor va la retrouver, et elle vit au milieu de ces ruines magnifiques, qu'elle continue à habiter, mais qui sont là aussi, qui ont une portée symbolique un peu épaisse. D'autant qu'il va y avoir une autre maison en ruine qui va être à nouveau réhabitée par des femmes dans une sorte de collectif
ouais.
féminin. Donc voilà, on voit bien ce que Ali Gérard-Wacker est en train de nous raconter. Mais l'avantage, et ce qui est génial, et heureusement, c'est qu'à un moment donné, elle rentre dans du récit. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas juste ce récit symbolique, un peu épais, de réflexion, de méta-réflexion sur le cinéma ou d'image de ce qu'est en train de devenir le cinéma italien, mais elle ancre ça avec une très belle histoire d'amour et surtout un récit haletant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose la narration commence d'un seul coup à prendre le pas et donc d'un seul coup, quand on est dans cet espace-là narratif qui est génial, qui est vraiment une histoire haletante, et bien d'un seul coup, toute la poésie qui est mise autour devient lumineuse. C'est-à-dire qu'elle ne tourne, c'est pas une machine qui tourne à vide. C'est-à-dire qu'on est face à un film, elle a quelque chose à nous raconter et elle le raconte avec des outils de mise en scène, des outils cinématographiques, des outils narratifs qui d'un seul coup deviennent extrêmement beaux, extrêmement poétiques, sans rien révéler du tout. Cette statue magnifique. Il y a une histoire vraiment bouleversante, cette statue qu'on décapite. C'est très très beau. Et moi, il y a autre chose que je trouve absolument magnifique, c'est que donc ce personnage Arthur qui sort de prison va retrouver le personnage d'Isabella Rossellini, qui est en fait la mère de son ancienne amante. Et son amante a disparu. Et d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé, sait qu'elle a disparu. Et en fait, on comprend qu'elle a disparu vraisemblablement pour toujours. Et
en même temps, on le sait pas. Le film n'est jamais
explicite. Et néanmoins, il y a quelque chose, moi, il y a cet élément que je trouve très très joli, qui est celui du fil rouge.
Ouais.
Et le fil rouge, le fil d'Ariane.
Qui
est résolu de manière extrêmement délicate, c'est joli, c'est bouleversant. Enfin bref, moi il faut s'accrocher au début. C'est un film qui a des aspects qui peuvent être extrêmement irritants, agaçants,
âpres,
et qui d'un seul coup s'épanouit. Et quand on est allé jusque là, moi je suis sorti très très ému et d'autant plus ému parce qu'évidemment il y avait la fatigue, moi je l'ai vu un peu plus tôt que vous.
Tu me vois maintenant, j'aime bien.
Oui, c'est ça. Vu ce que vous m'avez fait subir maintenant pendant toute. J'ai été obligé de les vouvoyer quand je les servais à table le soir en tenue de soubrette. Alors bon.
Et en même temps, est-ce que tu n'as pas eu l'impression à ce moment-là que quelque chose de l'ordre naturel des choses se mettait en place? Est-ce que tu n'étais pas au bon endroit?
Ça, il faut que tu arrêtes de dire Bruno Le Maire parce que tu commences à avoir une fantasmatique qui m'inquiète.
quand je t'entendais parler, il y a un truc qui me fascine un petit peu, c'est que je crois que je suis arrivée à un stade je suis arrivée à un stade de consommation de films qui fait que on a eu beaucoup 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 de films qui parlaient de cinéma de manière très frontale. Et en fait, du coup, j'ai pas pensé à...
Ah oui, à l'analogie avec ce qu'on doit déterrer, ce qui reste de notre passé et de ce qu'on en fait.
Je l'ai vu sur le plan historique, ouais,
le plan du cinéma.
Et je l'ai pas du tout vu sur le plan du cinéma, parce que on sortait du Kim Ji-woon qui parlait d'un film dans le film, on a parlé du Moretti qui parle de faire un film, et en fait, j'ai vu tellement de longs métrages, ou même le Gondry, il y a eu tellement de trucs sur des tournages, que là, d'un coup, j'étais en mode, waouh, elle me parle d'autre chose,
mais elle te parle que de ça, mais elle te parle que de ça de manière très très allégorique et très très poétique.
Et du coup, je le trouve encore plus beau, la maison qui
est habitée par la chair disparue et qui va se reconstituer dans une autre forme de
Ah mais
de,
oui,
de,
mais
de,
tellement.
Bah bien sûr.
Je me sens à la fois bête et illuminée à la fois. Touchée par la grâce.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On va jouer au super jeu des pronostics sportifs de Cannes. Dans quelques instants, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est vraiment
point fort, point faible.
Oui, bien sûr. Point fort, point faible. Phénomètre, palmomètre.
Alors, mon point fort, c'est l'utilisation de la métaphore dans le film. Et elle les superpose, elle les juxtapose. J'ai vu un tweet, je crois que c'est Marie Sauvion d'ailleurs qui l'a fait, qui m'a fait rire. Et en même temps, qui dit que Alice Rohrwacker nous fait payer ses années de lettres classiques.
Je trouve ça assez drôle.
Et je trouve qu'elle l'utilise très bien, c'est très très beau. Point faible, la première partie, elle aurait pu la rythmer un petit peu plus. Phénomètre, alors moi pas du tout, mais la personne qui était assise juste à côté de moi s'est marrée tout le film. Tout le film. Mais premier degré, hein, pas pour se moquer, elle riait, elle était italienne d'ailleurs, et j'avais l'impression que ça lui parlait. Et d'ailleurs, il y a marqué comédie dramatique, donc je pense que ça peut faire rire. Et Palmomètre, pour moi, pour l'instant, c'est mon prix du scénario. Je trouve qu'il est, il est très très bien écrit.
Point fort, il y a pas mal de points forts. Je trouve que c'est un film qui fourmille d'idées, de mise en scène, effectivement, et qui a une palette immense, en fait, une palette technique, hein, déjà, parce que c'est un film qui est tourné avec différents types de pellicules. On passe du 8 mm au 16 mm on voit que c'est vraiment une pellicule un peu abîmée. On sait, enfin, il y a toute plein de choses, la façon dont elle incarne, par exemple, les moments où lui a l'intuition qu'il va trouver une tombe, les apparitions et les flashbacks de son amour perdu. C'est à sa fourmille d'idées. Et puis, gros point fort aussi, Josh O'Connor, moi, que je trouve, pour le coup, pas du tout solaire, mais au contraire, dans un truc très, très, très lunaire, très mélancolique, assez taiseux. Et en même temps, on sent que c'est un homme qui est sur le point de tomber en morceaux, tout le temps, qui est sur une ligne de fracture. Moi, c'est vraiment mon prix d'interprétation masculine putatif. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un très très beau rôle, et que c'est lui qui tient aussi beaucoup ce film ses épaules, puisque effectivement c'est le seul qui est à peu près caractérisé du groupe, à part l'autre
à part Italia,
non mais Italia et l'autre surtout, celle de la fin.
Oui.
Donc ça, c'est le point fort. Phénomètre, je sais pas si on peut parler de fun, mais en même temps, alors fun non, parce que moi c'est pas un film qui m'a fait rire à proprement parler, mais c'est un film extrêmement extrêmement généreux et rewarding quand on commence à rentrer dedans. Et là vraiment, c'est parce que c'est un film généreux, en fait, c'est vraiment un film généreux. Le point faible, en fait, ce serait plutôt de dire que j'aimerais tellement qu'elle puisse en faire un peu moins, c'est-à-dire pas passer par ses gammes et rentrer plus directement dans son projet. Palmomètre, bah voilà, je vous ai dit prix d'interprétation masculine, mais pourquoi pas prix du scénario, ça me paraît pas déconnant. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt pilleur de tombe ou profanateur de sépulture? Vous pouvez évidemment nous le dire dans les commentaires. Dernier film en compétition, un autre grand habitué du festival avec plus de 20 films sélectionnés en 15 ans de compétition.
C'est beaucoup, hein.
C'est beaucoup, deux palmes d'or. Fabien Onteniente revient avec une adaptation de la
Sumo Shu. J'en étais sûr.
Le nouveau Ken Loach, The Old Oak, c'est le nom d'un pub dans le nord-est de l'Angleterre, au cœur d'un bassin minier frappé par le chômage. On est bien chez Ken Loach. Pub qui va accueillir des réfugiés syriens, ce qui n'est pas pour plaire à tout le monde.
What about some speculating greedy bastard who'll rent them out to some fucking moron?
Mm-hmm. The fucking parasites.
Yeah.
All they do, they don't even come to the village, they don't even come to the street, they don't even see the fucking houses they're buying.
Shite. Now you heard this?
Yeah? Oh.
They're advertising homes for rent in my street, right? In Durham fucking prison.
Yeah. The Old Oak de Ken Loach. Alors ce vieux chêne, Simon, toi qui en es un autre.
Il est noueux, il est là pour durer.
Moi, tu parles de mon sexe?
Ah oui, bien sûr.
Ah, faut qu'on arrête de le maire, ça n'a pas du tout.
Je pensais que non, ce renflement brun métaphorique était limpide pour tout le monde. Non, plus sérieusement, moi j'arrivais vraiment avec ma fourche et mon couteau devant ce film, parce que autant il y a ce truc un peu tragique chez Ken Loach, c'est qu'on lui en veut presque en général, et je me mets là-dedans, hein, d'être constant. C'est un réalisateur qui a pas beaucoup changé idéologiquement, qui est un peu depuis très longtemps sur les mêmes thématiques, sur les mêmes engagements, qui a adopté ces 15 dernières années une certaine grammaire de cinéma dont il n'a que très peu varié, et qui a réussi, parce qu'il était souvent programmé à la toute fin du Festival de Cannes, à rafler de la Palme d'Or, et on va dire à être une espèce de palme du cœur ou de palme de substitution, ce qui l'a rendu...
Pourquoi l'accent là? Je comprends pas.
Moi non plus. Okay. Ce qui l'a rendu odieux à pas mal de cinéphiles, mais dont moi, hein, je me mets tout à fait là-dedans, à plus forte raison parce que sa deuxième Palme d'Or est quand même pour une de ses pires purgeasses, qui était un film dans lequel la mise en scène était abominable, qui était surécrit. Ça fait un petit moment qu'il collabore avec le même scénariste, et c'est vraiment quelqu'un qui mange du pâteau sous petit déjeuner, quoi. Donc bref,
pour le film en question, c'était I, Daniel Blake, hein, c'est ça, hein.
Oui, absolument. Et donc pour toutes ces raisons, j'arrivais vraiment en n'ayant pas du tout envie d'aimer le film et en n'ayant pas grande confiance dans sa capacité à m'étonner. Et quelle surprise, quel choc ça a été, parce que oui, c'est le film qui m'aura le plus, sans doute, avec Dodin Bouffant, étonné à Cannes. il s'ouvre sur ce qui est peut-être la meilleure ouverture, ou en tout cas la plus intelligente en termes de cinéma, la plus belle introduction que j'ai vue à Cannes. Je mets Dodin Bouffant à côté parce que Dodin Bouffant, on n'est pas exactement sur une introduction, l'introduction elle dure 40 minutes, donc on est sur un geste un peu différent. Mais là, vraiment une vraie introduction, c'est-à-dire comment est-ce que je vais caractériser un de mes principaux protagonistes. Ça commence comme un truc très très classique, je vous spoil rien, mais en gros on voit des images fixes qui défilent à l'écran et puis une voix off par-dessus. Du coup, on va comprendre qu'il y a un lien entre cette voix off et ces images fixes, que cette voix off traite d'un sujet bien particulier qui illustre ces images fixes, et tout d'un coup bah, va arriver l'image animée là-dedans. C'est vraiment, c'est tout bête, c'est faire d'un de ces personnages de réfugiés celui par qui l'image fixe, le temps glacé, paralysé, dans lequel en fait vivent les autres personnages, à savoir les mineurs qui depuis le mi-temps des années 80 sont coincés dans un monde en déréliction, eh bien c'est ce personnage-là qui va faire que ce monde s'anime, devient du cinéma. Je trouve que c'est une idée magnifique. Et il y a plein d'idées comme ça dans le film. En apparence, on croit au premier degré qu'on se retrouve à nouveau avec notre Ken Loach, là, qui veut pas trop faire de photos, qui veut avoir une caméra un peu portée pour dire, vous avez vu les gars, on est vraiment avec eux. Et en fait, il y a déjà, moi, un concept de mise en scène qui est, je trouve, un truc, très théorique, intenable, et dont il arrive à faire quelque chose d'incroyablement beau. Il va vraiment travailler l'égalité de ses personnages, mais pas d'une manière soustractive. C'est pas oh je veux qu'on je ne veux pas les traiter, je ne veux pas composer mon image autour d'eux. C'est je veux travailler des personnages qui vont devoir devenir égaux et qui ne pourront s'en sortir que s'ils comprennent et s'ils acceptent qu'ils sont les mêmes en fait. Et je trouve qu'il arrive à incarner ça dans sa mise en scène avec de manière discrète. Hein, il fait pas de grands effets, il y a pas de plan séquence fou, il y a pas de on va dire d'identité remarquable de cinéma. Et pourtant, c'est fait avec une minutie, une sincérité, un artisanat que je trouve superbe. Ensuite, moi, il y a, et après j'en terminerai, je viendrai à parler un peu d'émotion pure, mais moi, alors qu'on lui reproche souvent d'être un peu programmatique, simpliste politiquement, je trouve au contraire que là, il fait un geste très fort et totalement d'actualité. Il faut savoir qu'il y a une notion qui a été, qui existait avant George Orwell, mais qui a vraiment été théorisée un peu par George Orwell, qui est la common decency. La common decency, c'est cette idée que dans le milieu ouvrier, dans les classes laborieuses, chez les travailleurs, il y aurait, alors là je caricature, hein, je vais très vite, mais un sens de la solidarité, de la manière de s'épauler, de se reconnaître entre semblables pour résister, et oui, pour faire preuve de solidarité, qui serait très fort, qui serait même un peu constitutif et emblématique des ouvriers, de la classe ouvrière. Il faut savoir que ce concept, il a été récupéré depuis une quinzaine d'années par un petit peu tout ce qu'il peut y avoir, les nouveaux réactionnaires en gros et la droite, notamment pour le faire dévisser en une espèce de bon sens commun. Et c'est quoi ce bon sens commun? Bah, c'est ce bon sens commun qui fait que, bien sûr, les médias vous parlent de l'immigration sans vraiment en parler, mais en fait, les gens du cru, ils savent. Ils sentent que la population change. Ils savent bien, au fond d'eux, que ça n'est pas une bonne idée, l'immigration. Ils savent bien, au fond d'eux, que les allocations, c'est de la merde. Bref, on a transformé la common decency en un espèce de bon sens réac. Et lui va justement, précisément, travailler cette figure-là. Qu'est-ce que c'est la common decency? Bah, la common decency, c'est un patron de pub qui n'a pas un rond, qui n'a rien, qui ne peut pas faire œuvre de charité, mais qui ne peut pas s'empêcher de se dire que ça n'est pas possible de ne pas aider les gens à côté de lui. Pas parce qu'il est Jésus descendu de sa croix, pas parce qu'il est génial, parce que lui aussi est un fils de mineur, parce qu'il sait ça, et il sait qu'on est plus fort ensemble, et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en tirer. Sauf que le film va être, à mon sens, très fin et pas du tout manichéen là-dessus, parce que ce type, il tient le pub où tout le monde se réunit, qui est en gros le dernier endroit de lien social de cette petite ville, de ce petit village, et donc là aussi où il y a les vieux racistes, les gens aigris, les gens malheureux, les gens qui en ont pris tellement dans la gueule dans l'Angleterre post-Thatcher, qui ne peuvent pas faire ou qui ne parviennent pas à faire ce mouvement-là. Et donc, il est à la fois celui qui permet aux autres de se rassembler, celui qui permet aux intolérants et aux racistes d'exister, et en même temps, celui qui veut aider les autres. Et je trouve que tenir ça, c'est très ambitieux, en fait, politiquement comme programme. Vraiment, c'est très fin. J'ajouterais, là, c'est vraiment de la blague, mais j'avais pas vu venir, mais c'est le John Wick communiste. Hein, en gros, la tagline pourrait être « Ils ont tué son chien, il va ressusciter l'international !» Et j'aime bien. Et je terminerai en disant qu'en plus, moi, il y a un truc qui me touche beaucoup dans le film, c'est la capacité de Loach à sortir de son programme. Loach, c'est un vieux coco à l'ancienne.
Eh ben, 86 ans cette année. Hein.
Ah oui, puis 60 ans de carrière. Quoi. Et ce vieux coco à l'ancienne, dont on peut faire le pari qu'il est, c'est pas un fou du christianisme, du spirituel messianique, enfin voilà, ça doit pas être trop sa came, eh ben, il te filme quand même cette exilée syrienne qui, elle, est bouleversée quand elle rentre dans une cathédrale parce que ça lui rappelle des bâtiments à valeur spirituelle et historique et religieuse qui ont été détruits en Syrie. Et la manière dont Loach a d'embrasser et d'accueillir des élans et des élans de bouleversement, quoi, esthétique et humain, qui a priori ne sont pas les siens. Je pense que Loach, il n'en a pas grand chose à foutre d'aller dans une cathédrale entendre des chants grégoriens. Je pense qu'il s'en cogne. Mais le fait qu'il soit capable d'accompagner son personnage à ce moment-là et de mêler ces territoires, parce qu'encore une fois, c'est pas anodin d'aller chez les mineurs qui se sont fait détruire, massacrer par le thatcherisme, et de dire, mais en fait, on ne pourra aller mieux que le jour où on va commencer à faire des trucs ensemble. C'est à la fois extrêmement simple, volontairement naïf, et je trouve que, mais je trouve que c'est traité avec une rigueur intellectuelle, une humanité, une dignité, et puis un sens de la didactique. Putain, qu'est-ce que c'est malin sur la manière de présenter les problématiques que je vois chez très peu de cinéastes aujourd'hui.
Ça me rappelle ce film, tu te souviens, du coréen qui s'appelle de Kim Song-un, avec ses gens, tu sais, il y a un film catastrophe et ils sont bloqués dans un
tunnel.
Alexis, à toi.
Elle est de Babel.
Elle est technique.
Tu sais quoi, j'espère qu'à un moment on va faire une pause, tu vas te lever pour aller aux toilettes et tu vas t'asseoir sur tes couilles en rentrant.
C'était quelle délicatesse.
Je l'ai pas.
Bah parce que Simon a fait un tunnel.
Elle a fait un bon gros tunnel.
D'accord.
Que vous sur un marché, pas du tout.
Voilà. Non,
on a dialogué, excuse-moi, nous on a partagé notre enthousiasme.
Moi je pense que je vais être un peu plus bref et surtout beaucoup plus sévère que Simon avec le film. Je reconnais, et je suis d'accord avec toi Simon là-dessus, l'introduction du film est super intéressante. Et elle est super intéressante parce que dès le départ, elle établit une espèce de brouillage entre la fiction et le documentaire. Et c'est quelque chose que le film va travailler, puisque on voit bien que Ken Loach, et ça fait longtemps que c'est comme ça dans son cinéma, il travaille avec des acteurs qui sont des illustres inconnus, qui d'ailleurs pour certains ne sont même pas des acteurs professionnels, c'est des gens qu'il a chopé en casting sauvage et qu'il met devant sa caméra. Il tourne dans des décors réels, avec le moins d'effets de mise en scène ostentatoire possible, avec le moins d'effets d'éclairage. Il essaye d'aller vraiment chercher l'ADN de l'Angleterre rurale et prolétaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qui, comme tu l'as souligné Simon, est aussi l'Angleterre rurale et prolétaire d'hier, parce que c'est vraiment une partie de l'Angleterre qui n'évolue plus, qui est coincée, qui stagne. Là où moi j'ai un problème avec le film, c'est que je trouve qu'il est fondamentalement, intellectuellement et artistiquement malhonnête. Pourquoi ? Parce que, déjà, moi le film, je trouve, dans sa représentation des problématiques politiques liées à l'immigration, liées au désœuvrement économique, social et humain de l'Angleterre rurale et de l'ex-Angleterre minière, je trouve que le film est assez simpliste. C'est-à-dire que moi, je ne sors pas du film en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose sur l'Angleterre. J'avais déjà une idée globale de tout ça quand je faisais des cours d'histoire au collège et au lycée. Donc j'ai pas le sentiment que le film mette une pièce de plus dans la machine. Mais surtout, c'est un film qui prétend être le plus réaliste et le plus cru et le plus direct possible, en tout cas qui prétend entretenir une connexion directe, naturaliste avec son sujet. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas pourquoi ? Parce que le film suit un programme scénaristique bien établi, bien calibré, où chaque petit élément qui pourrait être un élément du réel que Ken Loach choisirait de capter comme ça au détour du tournage, en fait a été savamment pensé et écrit pour servir de carburant à la narration. Donc en fait, c'est un film que je trouve mais extraordinairement écrit par rapport à ce qu'il nous promet dans sa mise en scène. Tu prenais l'exemple du chien. On pourrait dire que c'est un spoil de dire que le personnage, à un moment, malheureusement, va perdre son chien. Non, c'est pas un spoil. Parce que dès la deuxième séquence où le chien apparaît, on comprend tout de suite ce qui va lui arriver. Mais surtout, on déduit déjà à ce moment-là que c'est la mort du chien qui va provoquer une bascule chez lui. On sait comment cette bascule va s'opérer parce que, pareil, ça a déjà été lourdement introduit dans les dialogues et dans le scénario. On se doute bien qu'il va y avoir des problèmes pour le personnage principal quand il choisira enfin de faire un pas vers cette communauté de migrants syriens qui vient d'arriver dans son village. Et on se doute bien qui va lui poser problème et de quelle manière. Donc en fait, le film dissimule derrière un apparat de réalité brute, captée telle qu'elle, et bah dissimule tout un arsenal de techniques cinématographiques que je trouve assez grossières, qui me donne l'impression que le film me prend un petit peu pour un imbécile. Et surtout, là où est pour moi le vrai problème, j'ai presque envie de dire idéologique avec le film, c'est que ce n'est pas parce que le film dit des choses politiquement intéressantes et avance avec un discours qui est un discours d'inclusion, un discours d'ouverture vers l'autre, d'ouverture vers le monde, et un discours de réconciliation et même un peu de résilience pour certains personnages, ce n'est pas parce que le film avance avec ça qu'il peut se permettre d'être, cinématographiquement parlant, assez plat, scénaristiquement très lourdement écrit. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que si Ken Loach bénéficie de la place dont il bénéficie dans le paysage du cinéma international, et s'il a été maintes fois sélectionné, maintes fois primé, que ce soit au Festival de Cannes ou ailleurs, c'est parce que il avance avec les grandes eaux de la gauche tolérante et ouverte d'esprit. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que je me dis, ok, je suis d'accord avec toi idéologiquement, en fait. Et je suis d'accord avec toi depuis toujours. J'ai toujours été d'accord avec toi. Le souci, c'est que moi, je vais pas dans une salle de cinéma pour lire un tract politique, quand bien même le tract politique me parle. Je vais au cinéma pour voir un film de cinéma. Et là, je suis face à un projet cinématographique que je trouve, d'un point de vue esthétique, très faible, d'un point de vue scénaristique, très lourdement, très très lourdement écrit. Donc en fait, je suis désolé, mais pour moi, le contrat n'est pas rempli. Si Ken Loach avait décidé d'écrire 5 ou 6 pages de tract et de les envoyer dans toutes les boîtes aux lettres des journalistes du monde pour expliquer, bah voilà ce qui se passe en Amérique minière avec les migrants, j'aurais certainement
en
lu son...
En
Angleterre, oui. J'aurais certainement lu son, son tract et je l'aurais lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et je pense que je l'aurais trouvé très pertinent et très agréable à lire. Le fait est que je suis au cinéma et bah, c'est pour voir un film de cinéma. Et c'est là qu'est mon désaccord avec le cinéma de Ken Loach.
Alors, Simon, peut-être, parce qu'effectivement, tu as beaucoup parlé de thématiques, mais qu'en est-il précisément du cinéma, c'est-à-dire de la mise en scène, de la photographie, dont on sait que c'est quand même pas la carte majeure et l'atout de Ken Loach globalement.
Alors, j'apporterai une nuance. On sait qu'il y a des projets dans lesquels il ne joue pas ces cartes-là. Mais tu regardes quelque chose comme Le Vent se lève, par exemple, en termes de cinématographie, ça cassait des ronds de chapeau quand même. Je ne sais pas ce que veut dire cette expression.
Non, mais je parle vraiment du Ken Loach récent.
Bien sûr. Oui, mais alors, moi, ce qui me pose problème avec les griefs que tu as brillamment énoncés et griefs qui sont partagés par beaucoup de spectateurs du film depuis hier, hein, c'est que pour moi, ils s'appliquent à la perfection, avec précision et exactitude et pertinence, aux 4-5 précédents Ken Loach. Vraiment. Et je ne retrouve absolument pas ça là-dedans. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Alors, oui, il y a un truc qui peut être un petit peu obscène dans l'idée de voir tous les grands bourgeois cannois en smoking verser leurs petites larmes devant le Ken Loach et faire « c'est vrai, c'est pas facile hein, pour les autres ». Oui, mais ça n'est pas mettre au discrédit du film, c'est extérieur au film. C'est un tract. Je suis pas sûr que ce soit un tract parce que je vais essayer de ne pas spoiler, hein, mais grosso modo pour moi c'est un film qui dit bah oui bah notre belle tentative de rapprochement, de rassemblement et de destruction des frontières qui nous séparent, bah c'est un échec, elle est détruite par certains d'entre nous et finalement le seul moment où on arrive à se rassembler c'est dans le deuil. Alors oui certes c'est émouvant, oui certes c'est joli, à la fin il y a des gens qui se rassemblent, ils se rassemblent quand même pour dire ah bah oui ah, la mort c'est triste. Je suis pas sûr que ce soit si positif que ça. Je suis pas sûr que ce soit si simpliste que ça. Ensuite, tout ça est grossier, mais je pense que c'est oublier aussi un petit peu que Ken Loach est en train de parler d'un réel qui est grossier. On est dans un réel où on a un maire qui a dû démissionner parce que des nervis d'extrême droite sont allés jusqu'à pratiquer des attentats dans sa ville et sur sa propriété. On est dans un pays qui négocie de manière, on va dire, peu compatible avec l'éthique, avec le Royaume-Uni pour ne pas lui envoyer d'exilés et de migrants. Je veux dire, on est dans un réel qui est grossier, qui est brutal et inhumain. Et il me semble que je pense pas du tout que Loach fasse une œuvre de simplisme ou de sous-cinéma. Je pense qu'au contraire, il essaye de calibrer parfaitement face au réel avec lequel il discute. Et qu'en fait, c'est vraiment un film qui peut... Pas qu'il peut changer les choses, pas qu'il peut machin, ça c'est débile. Mais en fait, j'ai le sentiment que c'est un film qui est d'une humilité absolue. Justement, moi j'ai pas l'impression que le film me donne de leçons. De par la manière dont il est filmé, de par la manière qu'il a, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de placer ses personnages dans le cadre, de par la manière qu'il a d'accorder à l'idée, peut-être de la grâce, du petit miracle, parce qu'il y a des trucs dont Loach n'a rien à foutre, mais il sait que ses personnages, et peut-être ceux qui pourraient être touchés par le film, vont être touchés par ça. Et vraiment, ouais. Voilà, moi, en fait, j'ai l'impression que le film paye pour les 3-4 derniers Loach, qui étaient des purjasses infâmes.
Alors, mais c'est peut-être le cas, mais encore une fois, moi, le problème qui me pose avec le film, c'est que justement, je trouve qu'il prétend toucher du doigt une réalité, alors qu'en fait, cette réalité, il la réorganise sous forme de scénario académique. Et c'est ça qui me pose souci. Je m'explique. Il y a une séquence dans le film où il est question d'un vieux panneau électrique qui alimente une pièce du pub et on nous dit clairement le panneau électrique il est hyper vétuste, il n'a pas été rénové depuis 15 ans, c'est des vieilles installations, c'est vraiment vraiment pas sécure de l'utiliser. Ken Loach aurait pu se dire, bah voilà, je suis dans mon décor de pub de l'Angleterre rurale et je vois ce vieux panneau électrique. Je filme ce vieux panneau électrique parce que ce panneau électrique, il traduit par sa vétusté la précarité et le désœuvrement de cette population. Il aurait pu juste nous le montrer comme une information directement puisée dans le réel. Or, ce panneau électrique, il n'est pas simplement filmé. À côté, il y a un personnage d'électricien qui est en train de nous dire « Vous avez vu le panneau électrique, là ? Attention, hein, parce qu'il est quand même en très mauvais état. » Et moi, spectateur, à cet instant-là, je ne me dis plus « Ah bah tiens, voilà un petit bout de réalité matérielle capté au détour du tournage. » Non, je me dis « Ça, c'est une préparation. À mon avis, ça va servir à quelque chose. » 20 minutes plus tard, le panneau électrique pose un problème de scénario au personnage. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est que tu peux faire un film écrit. Ça me gêne pas du tout, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis pas un défenseur de la captation du réel avant l'écriture de scénario, pas du tout. Mais j'ai le sentiment que le film prétend capter un réel, alors qu'en fait, il suit les lignes d'un scénario préécrit et préétabli, et c'est ça qui me dérange.
Alors, bah, oui,
c'est
mais
qu'il n'avance pas à visage découvert, c'est ça
oui,
qui me dérange.
Mais alors bon, au-delà du fait que je trouve que ton reproche, c'est vraiment c'est couper les cheveux en 8 et essayer de les
soulever. Non, parce que c'est un exemple parmi des dizaines d'autres dans le film.
Non, mais
à commencer par le chien.
Pas ton exemple, mais ce positionnement-là. Et surtout, moi, j'ai pas du tout l'impression que ce soit la prétention du film. Le film commence, on en a parlé d'ailleurs, tu vois, de cette ouverture, par un pur artifice de cinéma. Par du pur artifice, de la pure construction.
Non.
Et pour moi, le film, c'est vraiment, je vais te dire un truc, hein, c'est le film doudou. Mais vraiment, doudou, câlin, pour qui a envie de se dire « Mais je suis sûr qu'on pourrait faire un peu mieux. Et je suis sûr qu'il y a un peu de grâce là-dedans. » Et ce n'est pas autre chose. Donc c'est très construit. C'est très attendu. Mais je trouve que c'est fait, encore une fois, avec un talent, une humilité et une humanité que je ne retrouve pas dans beaucoup d'autres compositions.
Mais pour moi, pour revenir très brièvement sur cette introduction, je n'ai pas dit... J'ai dit que cette introduction, selon moi, elle était intéressante parce qu'elle brouillait la frontière entre fiction et documentaire. Et pour moi, elle fonctionne comme une note d'intention du film. C'est-à-dire que Ken Loach nous dit, bah voilà, moi j'ai décidé d'essayer d'évoluer entre la fiction et le documentaire.
Bah non, il va passer de l'un à l'autre.
Oui, exactement,
je pars de ça, mais en fait, ce que je vais vous faire, c'est une histoire.
Mais oui, mais en fait, pour moi, je suis désolé, pour moi, ça ne fonctionne pas. Parce que je ne vois passer cette intro... Je n'ai plus l'impression d'être dans un film qui mêle la fiction et le documentaire. J'ai l'impression d'être dans un film qui déguise une fiction en documentaire. Ça me gêne.
Ah oui, d'accord. Je comprends, mais
Sophie.
J'avais une petite anecdote mignonne sur Ken Loach.
Les deux gauches, c'est ça?
Alors oui.
À la base, il s'appelait Ken de gauche.
Mais vous savez, ce truc qu'on peut reprocher, notamment, on en a parlé beaucoup ici, hein, des positionnements comme Ruben Östlund qui veut être moralisateur, mais qui au final profite beaucoup du système, etc. Bon, on ne va pas revenir dessus. Mon frère a croisé Ken Loach dans le train le lendemain de sa Palme d'Or. Il était en seconde classe en train de certainement faire Ken Paris pour après certainement reprendre l'Eurostar. C'est-à-dire que le mec, il vient pas du tout en jet privé en tout. Genre, c'était vraiment un vieux monsieur avec sa palme posée en boule dans son sac, assis en deuxième classe, à attendre que le temps passe. Et je sais pas, je parle pas du cinéma, j'ai pas vu le film, j'ai vu La Chimera ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand j'ai su ça en 2016, je me suis dit... Ok, c'est mignon. Genre, je suis contente que le mec qui a fait Daniel Blake prenne pas un jet privé après. C'est con, hein, c'est tout bête.
Ah, mais je pense que le cinéma de Ken Loach, pour moi, a un vrai problème de malhonnêteté intellectuelle dans son dispositif. Je ne pense en revanche pas du tout que Ken Loach soit intellectuellement malhonnête en tant qu'être humain.
Je pense qu'il
a des convictions très sincères et qu'il vit selon ses convictions.
Hein. Je pense. En fait, je voulais juste le repréciser parce que je trouve que c'est un exemple un peu rare, en fait. Je voilà, c'est tout. J'aime bien cette anecdote.
Mais moi j'ai une dernière question pour conclure pour Simon, parce que je trouve que malgré tout, ce que je comprends pas très bien dans ton argumentaire, notamment autour de la mise en scène, c'est que si je la résume, et je la résume de manière caricaturale pour te faire réagir, donc c'est certainement un grand trait, mais tu dis, puisque sa volonté c'est de filmer la réalité politique et sociale, et bien du coup sa mise en scène va être une non-mise en scène parce qu'il faut être au plus proche de la réalité et donc avoir une image qui est une image
qui n'est pas
une image travaillée.
Absolument pas.
Bah, c'est ce que j'ai compris.
Alors, parce que tu comprends rien. Non, ce que je dis, c'est qu'il se pose la question de comment essayer de représenter l'égalité. Et comment le représenter, justement, non pas en faisant une non-mise en scène, non pas par soustraction, mais comment je fais pour faire, dans mon montage, dans mon découpage, dans mes cadres, exister tous ces personnages avec la même dignité. Et comment je fais pour que cette famille de Syriens qui vient déposer un peu de bouffe au pub pour aider pour le grand Raoult qui veut l'organiser, comment je
le
fais...
Le grand Raoult, tu veux parler du...
Le gros Didier, oui. comment faire pour... à trouver un dispositif de cinéma qui ne les traite pas comme, on va dire, de manière pusillanime ou de manière larmoyante, et comment faire pour que mes trois poivrons racistes à côté qui leur envoient des fions, j'arrive à montrer qu'il y a là aussi un processus de destruction sociale et du corps social. Bref, comment traiter mes personnages à égalité. Ça ne veut pas dire ne pas filmer, ça veut pas dire ne pas mettre en scène, ça veut dire trouver un moyen pour que la mise en scène sorte des questions de bien, mauvais, gentil, pas gentil. Alors là, je vais vous spoiler un peu, c'est vraiment, mais comme le disait, oui, et j'en terminerai par là, mais pour donner un exemple, et comme le disait Alexis, en plus, c'est vraiment un truc très prévisible, donc c'est pas, je vais pas vous cramer le film, hein, mais dans ceux qui sont très aigris dans ce petit village et qui se désolent tant de voir arriver les Syriens que de les voir arriver dans leur bar, il y a un type dont on comprend, dont on sait que c'est probablement un ami d'enfance du patron du bar. Et ce type, bah, quand on le voit avec ses copains fachos, c'est de loin le plus modéré, calme. Et pourtant, il aura un geste terrible dans le film. Et en fait, le film arrive à te montrer qu'il y a comme ça des mouvements, des nuances qui traversent les êtres humains, que ce type n'est pas que d'un bloc, et qu'au final, quand il faudra se rassembler, c'est quand même lui qui sera touché. Alors qu'il a été peut-être le plus hypocrite, le plus faux cul, et voilà, ce que je veux dire, c'est que le film, justement, parce qu'il se pose la question de comment ma mise en scène peut sortir de la morale, du bien, du mal, du gentil, du méchant, arrive à donner un espace et une liberté à ces personnages, que je trouve remarquable, et qui, en termes de travail de cinéma, me paraissent sans équivalent au sein de la croisade cette année.
Alexis, point fort, point faible, phonomètre, palmomètre.
Point fort, je vais en donner deux rapides, parce que j'étais quand même très sévère avec le film. Le premier, c'est Dave Turner, l'acteur qui joue TJ, donc le patron du pub, qui est vraiment, pour le coup, un acteur, un illustre inconnu, comme souvent chez Ken Loach, mais un acteur vraiment brillant, et qui compose un personnage très touchant, je dois le reconnaître. Et puis, effectivement, Simon l'a relevé, donc je vais abonder dans ton sens, le film a une vraie intelligence, c'est de nous montrer que on n'est pas unilatéralement raciste. C'est pas quelque chose qui est dans l'ADN de l'humain, c'est souvent le fruit d'une déliquescence sociale et d'une déliquescence politique aussi. Et ça, le film est suffisamment intelligent pour le souligner avec une certaine nuance. Point faible, je l'ai dit, je trouve que le scénario est hyper programmatique et qu'en plus, le film n'assume pas d'avoir un scénario programmatique et essaie de le déguiser en fiction documentarisée. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me gêne profondément. Phonomètre, je dirais 3, 4 sur 10. C'est pas ennuyeux, mais c'est pas fun. C'est quand même un film assez triste. Palmomètre, est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que le fait que Ken Loach passe en fin de festival va bouleverser le jury et que sans recul, ils vont lui donner une récompense suprême? Honnêtement, je pense pas. Mais je serais pas surpris qu'il reparte avec quelque chose quand même. Peut-être un prix secondaire, peut-être un prix du jury ou quelque chose comme ça. Voilà.
Simouna,
Point fort. Pour moi, le point fort, c'est la manière, l'articulation entre l'humain et le théorique au sein de la mise en scène. C'est pour ça que je parlais de common decency, c'est pour ça que je parlais des thématiques et c'est pour ça que j'en revenais à l'humanité, ce qu'évoquait aussi Alexis. Point faible pour moi, c'est le seul, mais il est réel, c'est un peu facile néanmoins de choisir comme personnage le plus à la pointe, le plus visible dans la communauté, dans les familles syriennes qui viennent s'installer dans ce village, celle qui est la plus éduquée, qui fait de la photo et qui parle anglais.
Ouais, ça on n'en a pas parlé, mais c'est très gênant.
C'est pas tant que c'est gênant, mais c'est une grosse facilité. C'est-à-dire que, effectivement, dire qu'on s'intègre bien quand on parle la même langue, qu'on connaît plein de trucs et machin, oui, effectivement, je serais curieux de voir comment sa mère s'intègre.
Ouais, voilà. C'est un peu problématique quand même.
Non, pas problématique.
Ah, un peu compliqué. Non mais vas-y, j'ai pas vu le film, donc
tu vois, ça, oui, non mais problématique, non, parce qu'il faut aussi bien que c'est, tu vois, il faut bien un premier truc pour dénouer. Mais c'est une vraie faiblesse. Phonomètre, le fun est absent. Donc, on va dire 2 sur 10 en phonomètre. Palmomètre, alors je pense honnêtement que Robin Hoosland, avec deux palmes au compteur, ne donnera jamais une troisième palme à Ken Loach. On préférera tuer tous les membres de son jury à la main ou à la petite cuillère avant. Donc ça n'arrivera pas, il n'aura pas de palme. Non, il aura peut-être le prix du gentil papy.
The Old Oak de Ken Loach, est-ce que vous êtes plutôt vieux chêne ou jeune roseau? Vous pouvez nous le dire, et bien sûr, dans les commentaires. Le palmarès, c'est ce soir, et Cannes ne serait pas Cannes sans jouer au petit jeu des pronos, qui est littéralement le même mot que porno à une lettre près. Est-ce que c'est un hasard? Je ne le crois pas. Du coup, nous sommes appliqués ce jeu du palmarès et des pronostics, avec les pronostics qui seront ceux que l'on aime, les prix que nous aimerions donner, ce qu'on appelle les prix de cœur, et les pronostics, en considérant un peu l'intégralité, le jury, l'histoire des prix précédents. Et on commence par le prix du scénario, on remonte jusqu'à la Palme d'Or, on fait comme un vrai...
On passe tous les prix?
Ça va vite, on ne développe pas. Hein, okay.
Alors, allez, on commence par le prix du scénario, Sophie.
Moi, ce sera du coup pour La Chimera, et je pense que maintenant avec réflexion, elle l'a déjà eu le prix du scénario, mais pour l'instant, c'est celui que j'ai vu qui est le plus travaillé, en tout cas le plus méticuleux. Donc pour moi, c'est à la fois un coup de cœur et un pronostic.
Alexis.
Moi, je pense que le prix du scénario devrait aller, selon moi, à L'enlèvement de Marco Bellocchio. Parce que c'est pas le, c'est loin d'être le film de Bellocchio le plus intéressant, mais je trouve que dans son écriture, il convoque beaucoup de choses qui, elles, sont passionnantes. Et en plus, je trouve qu'il a un personnage principal, ce fameux Edgardo Mortara, qui est un personnage assez cryptique. Et c'est pas facile de tenir un film sur un personnage dont finalement on ne saura presque rien encore à la fin du film. Par contre, je pense que le jury, à mon avis, il y a plus de chances que le Todd Haynes soit récompensé pour l'écriture de scénario.
Simuna.
Sur le scénario ?
Oui.
Alors le scénario, bah, si vous regardez un peu ces dernières années, je crois qu'il y a une règle immuable, c'est qu'ils doivent remettre ce prix en dernier, ils sont « Ah putain, à qui on le donne ?» Qui est-ce qu'on aime bien qu'on n'a pas encore primé ? Donc en général, ça va toujours à un film dont le scénario n'est pas du tout le central. Donc moi je pars plutôt sur Les Filles d'Olpha, parce que Les Filles d'Olpha n'est remarquable, enfin, pas n'est remarquable que, mais est principalement remarquable par son dispositif de mise en scène. Et comme souvent, quand il y a un grand dispositif de mise en scène, on va primer le scénario, CF Léviathan.
Et toi, ton coup de cœur ?
Bonne question.
Mon quelle préparation de... c'est, vous savez, c'est un métier de professionnel. Hein.
Oui, mais alors, mais comme je déteste les pronos, j'ai du mal. Mon coup de cœur, ce serait plutôt pour Monster, dont je trouve qu'effectivement, en termes d'écriture, c'est le plus accompli.
Tu détestes les pronos, mais tu détestes pas les pornos. Non. Ok. Pareil, oui, moi, prix du scénario. Monster, donc, qui a reçu le prix de la Queer Palm hier, remis par John Cameron Mitchell, et qui est une très très jolie Queer Palm, parce que c'est par ailleurs un extrêmement joli film. Moi, je pense effectivement que Monster peut repartir pour les mêmes raisons que Simon avec le prix du scénario, et pronostique pour les mêmes raisons que Simon Les Filles d'Olpha. Prix de la mise en scène, Sophie.
Mon coup de cœur, et parce qu'il ne l'a jamais eu, c'est Asteroid City de Wes Anderson, parce que s'il y a bien quelque chose qui caractérise tout le cinéma de Wes Anderson, c'est que sa mise en scène, c'est ce qu'il caractérise le plus, à savoir sa photo, son dispositif, le fait de faire des choses extrêmement symétriques. Et c'est juste que comme il ne l'a jamais eu, j'aimerais bien qu'il l'ait. C'est pour ça, pas particulièrement pour celui-là, mais pour l'ensemble de son œuvre. Et pour moi, justement, le prix de la mise en scène irait plutôt à L'Enlèvement. Parce que je pense que quand on veut récompenser un réalisateur un petit peu potentiellement en plus en fin de carrière, voire même en fin de vie, lui donner le prix de la mise en scène, symboliquement, c'est quelque chose. C'est-à-dire que c'est un grand réalisateur.
Bah, moi, pour les mêmes raisons que Sophie, mon coup de cœur irait plutôt vers Asteroid City, parce que Wes Anderson a développé un système formel unique. Il le maîtrise à la perfection et c'est quand même assez rare dans le paysage du cinéma américain. Et puis ça fait plusieurs fois qu'il est sélectionné en compétition et qu'il repart avec rien. Au bout d'un moment, ce serait bien qu'on reconnaisse le fait qu'il est dans la compétition avec les autres. Et je pense qu'effectivement, vu que Marco Bellocchio est un cinéaste âgé, un peu fatigué, que ça devient compliqué pour lui de faire des films et qu'en plus, il a toujours ce truc d'aller chercher des sujets qui sont exigeant et ambitieux, donc ça lui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À chaque fois qu'il sort un film, c'est potentiellement le dernier, et je pense que le jury peut aller dans ce sens-là et se dire bah, c'est le dernier Bellocchio, on lui file la mise en scène.
Simuna.
Alors moi si je vais plutôt du côté du coup de cœur, c'est évidemment Firebrand, dont je trouve qu'il n'a pas été assez commenté, ce très beau film qui est très bien.
c'est un métier de professionnel, vous savez, hein, des années de préparation.
Et qui travaille notamment à comment représenter le patriarcat, comment attaquer son idée. Et en même temps, comment travailler, on va dire, les attendus du film historique, et en cassant tout ça là-dedans. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un très beau boulot de pure mise en scène et de photographie aussi. Et ensuite, eh bien, plutôt en partie prono. Pour moi, oui, c'est L'Enlèvement, le Rapito de Bellocchio, pour les raisons que vous avez évoquées, mais aussi parce que, une raison que vous avez évoquée plus tôt dans l'épisode, c'est un des rares cinéastes italiens qui n'est pas dans la redite absolue des classiques. Et donc, ce serait l'occasion voilà, de primer un cinéma italien, mine de rien, bien vivant.
Pour moi, mon prix de la mise en scène, c'est indiscutablement le Nuri Bilge Ceylan, Les Herbes Sèches, parce que vraiment, enfin, c'est la photographie, le travail de mise en scène, la composition des plans, c'est vraiment ce qui caractérise le cinéma de Bilge Ceylan, et vraiment, je trouve que c'est certainement l'un des trucs les plus beaux que j'ai vu cette année. Je pronostiquerais plutôt un prix de la mise en scène pour Asteroid City, parce que je pense que c'est effectivement la cam de Rubignol Slund, et que ce sera l'occasion de donner un petit quelque chose à Wes Anderson qui, comme l'a dit Alexis, est venu plusieurs fois sans obtenir rien et qui mérite guère plus. Interprétation féminine.
Je pense que là, on est quasiment tous d'accord pour dire qu'un de nos coups de cœur... Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est Sandra Hüller. Pour moi, elle a dévasté l'intégralité du festival avec ses deux films.
À la télé d'une chute et
The Zone of Interest. Et je pense que The Zone of Interest aura un prix plus haut et qu'il y a une histoire de cumul impossible. Donc, je pense qu'elle l'aura pour Anatomie d'une chute, qui a un prix cumulable interprétation féminine, soit avec un prix du scénario, soit avec un prix du jury. Donc, je pense, d'où le prix du jury pour Anatomie d'une chute et prix d'interprétation féminine.
Ouais, moi pour les mêmes raisons, j'ai mis Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Je pense que c'est elle qui va la voir. J'espère qu'elle l'aura pour ce film-là, parce que si elle l'a pour The Zone of Interest, ça veut dire que pour The Zone of Interest, c'est terminé.
Non. Il pourra plus si elle l'a pour Anatomie d'une chute.
Oui, mais c'est pas. Mais
si non, c'est ce que je dis. Si elle l'a pour The Zone of Interest, ça veut dire que Zone of Interest ne sera pas Grand Prix, ne sera pas Palme d'Or. Et moi, c'est personnellement ma palme. Donc, je.
Oh là là,
j'ai envie de soulever.
Tu le suspense.
J'ai envie de sauver Sandra Hüller parce qu'effectivement, elle le mérite. Pour Anatomie d'une chute, où elle est un cran en dessous de ce qu'elle propose dans Zone of Interest, à mon sens. Mais je, voilà, pour moi, c'est elle qui peut l'avoir et c'est elle qui doit l'avoir.
Le simple fait qu'elle soit présente dans deux films et avec deux performances exceptionnelles font d'elle la favorite. Néanmoins, et je le dis, je pense pour beaucoup d'entre vous autour de cette table et beaucoup d'entre vous dans quelques mois quand vous découvrirez le film, ce serait aussi un très beau geste que de le remettre à Juliette Binoche qui est incroyable dans Deux Dindons Bouffants.
Oui.
Oui, bah, alors moi je suis d'accord, c'est ce que j'avais dit au début, j'avais dit Juliette Binoche pour Deux Dindons Bouffants, mais comme Deux Dindons Bouffants je le classe plus haut, je suis d'accord, je pense que Sandra Hüller mérite intégralement dans mon coup de cœur et en pronostic le prix d'interprétation féminine, interprétation masculine.
Alors je pense deux prix de cœur que ce sera Josh O'Connor pour La Chimera et à cause des bruits de couloir et pour ne pas lui donner en tant que réal, je pense que c'est Nanni Moretti qui va l'avoir en prix d'interprétation.
Quel enfer.
J'ai pas vu le film, hein, donc là vraiment c'est
lui
du chrono.
Hein.
Alexis.
Bah moi, vous savez ma passion pour Benoît Magimel, donc moi mon coup de cœur c'est Benoît Magimel dans La Passion de Dindons Bouffants, surtout qu'il avait été complètement ignoré pour Pacific Fiction alors qu'il dépassait de loin tous les autres interprètes de la compétition en 2022. Néanmoins, je pense que l'histoire va se répéter et que Benoît Magimel va à nouveau passer entre les mailles du filet. Et on en a beaucoup entendu parler dans les bruits de couloir de la Croisette depuis le début du festival. Je pense que Jude Law est bien placé pour Firebrand. Je pense qu'il peut avoir le prix d'interprétation masculine.
C'est Mouna. Ben moi, Jude Law, c'est plutôt le côté du cœur, parce que j'ai peur que ce côté un petit peu programmatique du « je joue un méchant roi et je cabotine à mort », parce qu'il cabotine à mort, mais avec génie, ne séduise pas le jury, mais pour moi, ce serait vraiment le prix du cœur. Et je me demande si on n'a pas des chances de voir débarquer Koji Yakusho de Perfect
possible
Days.
Aussi. C'est possible
parce que,
aussi.
Mine de rien, le Wim Wenders, s'il n'a pas enflammé la Croisette, a beaucoup séduit. Beaucoup de gens étaient heureux de voir que Wim Wenders, à défaut de faire du cinéma, était vivant. Et comme ils peuvent pas trop donner d'autres prix décemment et que en revanche son comédien est excellent dans le film, je serais pas étonné qu'il se chope un petit prix. Ouais.
Moi je rejoins Sophie qui est ma préf comme vous le savez pour Josh O'Connor dont la prestation est vraiment vraiment remarquable dans La Chimera. Je pense qu'il mérite tout à fait un prix d'interprétation masculine. J'avais dit pour me mettre un peu dans l'esprit, je vous assure que c'est désagréable, de Rúni Alslund, qu'il pourrait vouloir primer Black Flag, parce que je pense que c'est un film qui peut lui plaire, et qui pourrait vouloir primer Sean Penn, qui pour le coup se dégage un peu du marasme de ce film avec une interprétation assez brillante.
Ouais.
Mais j'ai vérifié a posteriori, Sean Penn a déjà eu le prix d'interprétation masculine pour She's So Lovely, donc peut-être pas deux fois.
Mais est-ce que ça peut peser dans le pour ou dans le contre? C'est la question. Est-ce qu'ils veulent faire la doublette ou est-ce qu'ils se disent il l'a déjà eu, on va primer quelqu'un d'autre?
Ouais, c'était il y a un petit bout de temps.
Réponse ce soir.
Sinon, je suis d'accord, Jude Law fera un excellent candidat. Prix du jury, on arrive dans les trois derniers prix.
Mon prix du, jury, c'est La Passion de Dindons Bouffants. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est genre incroyable. En fait, le prix du jury de Grand Prix, La Palme d'Or, c'est un peu... c'est pareil, c'est juste un incroyable film, donc après on le met là où on veut. Par contre, je pense, et c'est là que c'est un peu plus tricky, souvent le prix du jury c'est un ex aequo. Et il y a un film dont on n'a pas encore parlé qui est Club Zero, que personnellement je déteste de plus en plus, mais je pense qu'il peut avoir un prix, et je le vois bien du coup avoir un ex aequo avec Anatomie d'une chute en prix du jury, qui pour moi est un film qui va mettre tout le monde d'accord, mais pas forcément déchaîner des passions. Et Club Zero, un film qu'on ne sait pas trop où ranger, parce qu'à mon avis ça divise plus. Donc je pense que les deux ensemble vont avoir un ex aequo prix du jury.
Alexis.
Prix du jury, moi j'irai du côté du cœur vers le Haki Kaurismäki. J'irai vers Les Feuilles Mortes parce que c'est le film le plus humble, le plus digeste et le plus touchant de ce festival en ce qui me concerne. C'était vraiment une petite parenthèse très agréable et j'aimerais bien que cette parenthèse soit récompensée par un prix relativement prestigieux, même si bon, Haki Kaurismäki il est déjà passé par la Croisette un paquet de fois, donc s'il ne l'a pas, c'est pas bien grave. Je pense que celui qui par contre a des chances de l'avoir, parce que je pense que son dispositif très radical a pu séduire Ruben Östlund et une partie du jury, moi je pense que le prix du jury peut aller à Jeunesse, le documentaire de Wang Bing. Voilà.
Simon.
Moi, mon pronostic, c'est Club Zero, exactement pour les raisons que Sophie a détaillées un petit peu plus tôt. Et sinon, moi, je sentirais bien The of Interest en prix du jury, tout simplement parce que le film est exceptionnel, il est remarquable. En même temps, il arrive sur un thème, à savoir les nazis, l'horreur, la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un peu passé. Il a été présenté tôt dans le festival. Et enfin, il n'est pas dit qu'il soit capable, comment dire, de rassembler tout le monde, tu vois, de ne pas cliver en mode vendredi des raviolis, samedi des nazis aussi, quoi. Donc bon, à mon avis, il aurait peut-être du mal à aller au-delà du prix du jury.
J'ai pas compris cette blague, mais ok.
Moi non plus.
moi, je pense que bon, mon prix de cœur, c'est The Zone of Interest, qui est un film qu'il faut primer, qui est l'un de mes films préférés de la compétition. Mon pronostic, c'est plutôt L'anatomie d'une chute, dans le sens où je pense que Rubinyal Sloun va vouloir primer des films très, très marqués, très radicaux, et que Anatomie d'une chute est quand même un film important et qui pourrait faire une sorte de consensus et auquel il faut malgré tout donner un des grands prix du festival. Donc voilà. Grand prix. Sophie.
Bah comme je ne voulais pas lui donner ma palme, je le mets en gentil numéro 2, c'est The Zone of Interest. Et je pense, par toutes les qualités qu'il a de mise en scène, comme c'est un film somme, mon pronostic, c'est La Passion de Dodin Bouffant. Voilà. Parce que je pense qu'il peut un peu plus cliver, mais je pense que les gens vont le voir comme un film peut-être plus abouti qu'Anatomie d'une chute. C'est comme ça que je le vois, mais voilà.
Moi, je pense, moi j'aimerais beaucoup que La Passion d'Odin Bouffant ait le Grand Prix. Même en vrai, s'il a la Palme d'Or, je serais très content, mais c'est pas mon numéro 1 pour cette récompense suprême. Donc moi, je lui donnerais spontanément le Grand Prix. Je pense que celui qui a des chances de l'avoir, parce que, mine de rien, il a fait grande impression, et puis il faut le dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un film artistiquement et narrativement très abouti, et très courageux et qui était en plus assez casse-gueule. Moi, je pense que celui qui a de très bonnes chances de l'avoir, c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet. Voilà.
Simon.
Moi, je rêve, mais je pense que je suis seul à Cannes, que Asteroid City ait le Grand Prix, parce que pour moi, c'est vraiment le.
Je confirme, tu es seul. Je viens de parler à Ruben, là, t'es tout seul.
Je marche seul. Et mais tout simplement, pour moi, c'est vraiment le film somme. Absolument, de Wes Anderson, et donc j'aimerais quand même, je trouve pas au niveau d'une Palme d'Or, le voir récompensé de la sorte. Moi, j'ai une vraie peur en termes de pronostic sur la présence de L'été dernier de Catherine Breillat. Je suis pas sûr que le jury soit fou au point de lui donner une Palme d'Or. Je suis même pas sûr que le jury soit fou au point de lui donner un Grand Prix, mais je pense que le festival, lui pour le coup, le festival a besoin de se voir validé dans la politique qu'il a lancée, à savoir une politique de troll extrêmement violent vis-à-vis du mouvement MeToo, vis-à-vis des mouvements féministes, et que après avoir été humilié par le scandale Maïwenn, après avoir été vomi avec non pas le scandale, mais la nullité de The Idol, après avoir été vomi encore une fois avec la nullité du Corsini, et ben en fait, le festival, s'il veut pouvoir un petit peu camper sur ses positions, a besoin qu'une de ses propositions, pour le moins discutable, soit validée. Et soit sacré.
Mais on a vu hier soir à la Queerpam que le Breillat a beaucoup d'admirateurs.
Hein. Oui,
il a séduit beaucoup de monde. Hein.
Oui, il a
et des gens qui normalement seraient plutôt sensibles aux questions justement de MeToo, de harcèlement, et qui trouvent que Léa Drucker est incroyable et que ça reste un grand film. Non mais on a suite avec ça. Je veux dire, moi j'étais le premier surpris.
Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, Nicolas. Et c'est pour ça, si tu veux, je pense que tu sais, les systèmes à un moment vivent et survivent assez logiquement. Et je pense que le festival, comment est-ce qu'on pourrait dire, fabrique ses propres anticorps pour pouvoir. Il a besoin que ce film soit primé en fait. Si ce film n'est pas primé, c'est vraiment, je veux dire, un aveu, un constat d'échec très violent pour la politique du festival qui est en gros, amis féministes, amis femmes, voici un bon gros majeur. Donc il faut qu'il y en ait un. Il faut qu'il y en ait un qui s'en sorte avec.
Moi, mon grand prix de cœur, alors peut-être c'est intéressant parce que c'est vraiment un film qui n'a cessé, comme souvent, de progresser et de s'améliorer en moi après l'avoir vu. J'en suis sorti je trouvais que c'était un film plaisant, et puis jour après jour, je me rends compte en fait que je pense que c'est un grand film, et je mettrai moi mon prix de cœur, mon grand prix de cœur à L'Enlèvement de Marco Bellocchio. Effectivement, c'est un vieux réalisateur, mais c'est un réalisateur dont on voit que contrairement à Nanni Moretti ou Ken Hoche, qui prend encore des risques, qui est encore capable de livrer un film avec un scénario extrêmement robuste, une mise en scène au cordeau, soignée. Je trouve vraiment qu'en fait c'est un très beau film, et je pense même que c'est un film incroyablement politique. Vraiment, moi je suis voilà, c'est un film qui n'a cessé de grandir dans mon souvenir et dans mon cœur, et donc je lui donne le grand prix. Je pense oui.
D'ailleurs, j'y ai pensé hier pendant la remise des prix d'Un Certain Regard. En fait, L'Enlèvement fait écho au film qu'ils ont passé, le tout petit film documentaire sur l'enlèvement des enfants ukrainiens. Et donc je trouve que j'ai eu un petit truc hier en mode. Ah, l'enlèvement d'enfants, en fait.
C'est vraiment d'actualité.
C'est vraiment d'actualité.
C'est
l'air
du temps. Hein, ouais, tout à fait.
Alors, je le trouvais vieillot.
On va redire un mot de la cérémonie d'un certain regard. Mon pronostic, c'est Club Zéro. Club Zéro, parce que c'est un film très clivant, que c'est un film avec une esthétique extrêmement marquée. Je pense que c'est tout à fait la cam de Ruben Östlund. Et je pense que c'est tout à fait le genre de geste un peu choquant et un peu bas de gamme, pour ne rien le cacher, même si moi, j'aime le film, hein, que Ruben Östlund pourrait faire. Et enfin, petite musique.
Et ma palme d'or est... Attention, Anatomie d'une chute. Vous êtes tellement surpris.
Quelle surprise.
Ah là là. Oui, je pense que c'est le plus grand film que j'ai vu de la sélection. Et je pense qu'on en reparlera plus longuement au moment de sa sortie. Je vous dirai tout le bien que je pense d'Anatomie d'une chute encore et encore et encore. Cependant, je pense aussi, et ça me va, ça m'irait très bien, que le plus, sans doute le plus politique, le plus âpre et surtout le plus gros geste de cinéma cette année, c'est mon pronostic, c'est The Zone of Interest.
Alexis,
oh, ça va être très long. Moi, pour le coup, le film coup de cœur et mon pronostic, c'est le même film, c'est The Zone of Interest de Jonathan Glazer. C'est la proposition la plus dingue de cette croisette. C'est un film qui me hante littéralement tous les jours depuis que je l'ai vu. Je pense que c'est un très 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 grand film. Et malgré son sujet, un très beau film de cinéma aussi. Et je pense que ça peut taper dans l'œil du jury bien méchamment. Donc à mon avis, il est très très bien placé pour la Palme d'Or et je serais ravi qu'il la décroche.
Simon, et la Palme d'Or est...
C'est évidemment La Passion de Dodin Bouffant qui est pour moi le geste de cinéma le plus radical que j'ai vu à Cannes cette année. Mais véritablement, je parle en termes de pure mise en scène, de pur concept, de pure ambition. Je trouve que c'est ce que j'ai vu de plus beau, de plus humain et de plus accompli en matière de cinéma. Donc c'est évidemment un palme du cœur. En revanche, je pense que The Zone of Interest, que j'adore, hein, que je trouve brillant, mais que je mets juste en dessous, me semble sur le papier mieux placé pour la palme parce que l'articulation entre son sujet... la qualité de sa mise en scène, et puis la radicalité de sa mise en scène et ses principes de mise en scène en font pour moi un client idéal et c'est presque écrit dessus, quoi.
Et pour ce qui me concerne, ma palme de cœur est évidemment La Passion de Dodin Bouffant. Pareil, je trouve que c'est un film d'une beauté, d'une poésie, enfin vraiment c'est qui confine au génie. C'est un film immense. C'est un film immense par ailleurs qui n'est pas un film clinquant ou un film provocateur. C'est-à-dire que c'est un film à dispositif certes, mais qui n'a pas ce côté un peu agressif et tape à l'œil que peuvent avoir d'autres films que j'aime beaucoup par ailleurs, comme The Zone of Interest, qui pour moi, par ce côté provocateur et radical, va séduire le jury et Ruben Östlund. Donc c'est mon pronostic. Un dernier tour de table très rapidement pour parler du film dans les autres compétitions que vous retenez, que vous voulez défendre et qui vous a bouleversé. Sophie ?
Oh, ben vous le savez, hein, c'est le Monia Chokri, hein, c'est mon film préféré de tout ce que j'ai vu parce que c'est un grand film simple comme Sylvain, c'est un grand film de réalisatrice, c'est un film qui est ambitieux visuellement et surtout je trouve qu'on a trop regardé avec dédain la comédie et la comédie élevée. Intellectuel, je trouve que on n'en voit plus beaucoup de cette qualité-là et c'est un exercice plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc pour moi, c'est le plus grand film que j'ai vu cette année.
Moi j'irais plutôt vers Le Procès Goldman, oui. Qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes. D'ailleurs le palmarès de la quinzaine est tombé depuis et on va en toucher deux mots rapides, même si pour le coup pas de chance, c'est des films qu'on n'a pas traités autour de cette table. Mais non, moi Le Procès Goldman, ça a été un film super intéressant parce que déjà je trouve que c'est un grand film de procès, très bien raconté, très bien filmé, et en plus c'est quand même un film qui nous dit, quand on est dans une logique de parole contre parole, c'est toujours le système qui l'emporte en premier lieu, quand bien même la parole contestataire est celle qui détient la vérité. Et ça, je pense que dans le contexte actuel, et surtout, le film a été présenté le lendemain de la projection du Mai Wen en ouverture de la sélection officielle, c'est loin d'être anodin, et c'était un démarrage politiquement très chargé pour la quinzaine, donc franchement, bravo à eux.
Simon.
Alors je partage tout à fait les deux choix que vous venez de poser, ça aurait pu être les miens, mais du coup ça me permet de me déplacer, de dévisser vers un autre de mes coups de cœur hors sélection officielle, à savoir Vincent doit mourir, qui est un film que je trouve d'une énergie, d'une poésie, d'une brutalité.
C'est Stéphane Gaston.
Et oui, et puis aussi D'une intelligence sur ce que c'est que faire un film d'horreur, d'horreur sociale, d'horreur humaine aujourd'hui. Et on va pas nous chercher je ne sais quelle identité remarquable du cinéma fantastique. On va inventer cette idée absolument terrible et jusqu'au boutiste, à savoir que y a une espèce de nouvelle maladie. Il y a des gens, quand vous les regardez dans les yeux, vous avez envie de leur taper sur la gueule. Et moi, c'est un truc que je connais depuis que je suis tout petit. Et enfin, un film là-dessus, quoi.
Pour ce qui me concerne, je pourrais parler du règne animal, puisque en fait, je partage l'avis de d'Alexis. C'est-à-dire que pour moi, l'autre grand film, immense film de ce Cannes 2023, c'est Le Procès Goldman. Mais Alexis, on a très bien parlé, et on vous en reparlera. Le règne animal de Thomas Cayet, qui a fait l'ouverture de Un certain regard, qui est un magnifique film fantastique, qui aurait eu, je pense, une place dans le palmarès, qui n'en a pas eu, d'ailleurs, on va y revenir dans un instant, mais qui est vraiment la preuve qu'on peut aujourd'hui en France faire des films fantastiques ambitieux, avec un scénario qui plus est des comédies fantastiques, hein, un peu comme Vincent doit mourir, et produire non pas du sous-produit de série B ou de série Z, mais finalement des vrais grands et beaux films qui parlent et qui résonnent complètement avec notre société, avec notre époque. Donc, un coup de cœur pour Le règne animal de Thomas Cayet. Du coup, Un certain regard, Monia Chokri, Thomas Cayet n'ont pas été primés. La cérémonie a eu lieu hier soir avec un John Cirilli un peu poussif, on ne va pas se mentir.
Un petit peu.
Mais néanmoins, un très joli événement à la fin et un très joli prix surtout. Sophie, je te laisse le commenter parce que c'était ton coup de cœur.
C'est ça. Je l'ai justement volontairement pas cité parce que je savais que j'allais en parler là. Donc c'est How to Have Sex, dont je vous avais parlé avec beaucoup d'émotion, qui est un des rares films que j'ai pu voir qui, un peu comme After Sun, qui est un parfait mélange entre délicatesse et brutalité. Je vais juste raconter comment elle est arrivée. Il faut savoir qu'au moment où on a annoncé le prix, la productrice de How to Have Sex est montée sur scène et dit Molly arrive, donc Molly meaning Walker, la réalisatrice, elle arrive, elle descendait de l'avion il y a 5 minutes, donc du coup John Cirelli s'est mis à chanter des chansons en attendant l'arrivée de la réalisatrice.
Ce qui était plutôt classe,
ça,
hein,
c'était vraiment
parce
classe.
Qu'il chante très très bien,
ouais,
en plus.
Il chante vraiment, c'est la formation Broadway,
ouais, vraiment, c'est ça.
Il a chanté a cappella. Et c'était vraiment, alors autant que ces discours étaient poussifs, autant ça c'était un vrai moment suspendu.
Excusez-moi Nicolas, excusez-moi Monsieur Martin, qu'on remette le prix de la liberté à un film pour qui la liberté c'est important, eh bien c'est important.
Mais qu'on mette, alors on va reparler du palmarès
après. Et le prix de l'ensemble pour un film qui a été fait par des gens ensemble, c'est important.
Et là, on voit une jeune réalisatrice dont c'est le premier film. Moi, je pensais qu'elle partirait avec la caméra d'or, on saura ce soir, qui est littéralement en short de confort, en basket chaussettes et en grand t-shirt, qui court au travers de la salle.
Le protocole en PLS.
Ah, mais complètement. Genre, elle court, elle est essoufflée, elle arrive et on sent tout le bonheur qu'elle a. On sent que ça a été, comme tous les premiers films, ça a été un run de faire ce film, d'arriver à quelque chose aussi abouti que ça, et ça a été un run pour recevoir le film. Je trouve que l'image est magnifique, cette réelle d'un coup, genre entre son film et sa prestation, je l'aime d'amour parce qu'elle représente une nouvelle génération de réalisatrices avec beaucoup de talent et beaucoup de fougue, et c'était un grand moment dans tout ce que j'ai pu voir de remise de prix tout confondu. C'était incroyable, incroyable.
On peut peut-être dire un mot du reste du palmarès, puisque donc le prix Un certain regard a été décerné à How to Have Sex, mais il y a 5 autres prix. Globalement, effectivement, donc Monia Chokri et Thomas Cayet n'ont pas été primés. On peut, c'est un des films que j'ai raté, mais qui me donne très 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 envie, dont j'ai entendu beaucoup de belles choses. Il y a un prix qui s'appelle le prix de la nouvelle voix, qui a été décerné à Augure de Balogi, qui est un film queer, mystique, fantastique, assez dingue. Et on voit qu'il y a quand même eu globalement une envie de donner un coup de pouce, un coup de projecteur à des cinémas plus rares, à des cinémas qui se font de manière plus difficile, notamment à un film soudanais, un film marocain, enfin bref, on voit que le jury de Un certain regard a vraiment fait son rôle de Un certain regard de jury, c'est-à-dire d'encouragement de cinéma émergent.
Oui, après, je suis très sceptique sur les intitulés des prix et sur ce qu'ils récompensent véritablement. Je pense qu'en fait, le coup qu'a tenté le jury, et c'est plutôt bien senti, je pense que le jury a pressenti que le palmarès du Festival de Cannes, donc de la sélection, de la compétition officielle, pardon, allait pas forcément être un palmarès politiquement très à jour, même s'il y a des films politiques dans la compétition. Je pense qu'à Un certain regard, ils ont vraiment misé là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va mettre en avant des gens pour qui faire du cinéma et surtout pour qui accéder aux grands messes du cinéma comme le Festival de Cannes, bah, c'est plus compliqué que les autres. On va les mettre en avant, on va les récompenser et on va leur donner un coup de pouce. Et effectivement, moi je trouve le speech qu'a donné, le très court speech pour le coup, qu'a donné John C. Reilly avant de remettre le prix Un Certain Regard à How to Have Sex, a été un speech vraiment intéressant parce qu'il disait voilà, c'est un film qui nous dit qu'il y a des choses qui doivent changer et que, en fait, si on regarde ce film et qu'on le comprend, eh ben on comprend précisément ce qui doit changer et quel est le moyen, nos moyens collectifs pour que ça change. Et évidemment, il parlait du rapport homme-femme et de la pression de la jeunesse vis-à-vis des rapports sexuels, etc. Et c'est, pour le coup, je pense que c'est un geste politique qui n'est pas un geste politique de cérémonie, quoi. C'est pas creux. Il y a du sens derrière.
Et on peut dire que la productrice, avant que la réalisatrice arrive, elle avait envoyé un mot. Et la première chose, les premiers mots qui ont été ceux de la réalisatrice, c'est elle dit « ce prix va et adresser à toutes les victimes d'agressions sexuelles ».
C'est ça.
Et ça, dans le contexte de ce qu'est 2023... Ça n'est pas tout à fait anodin, c'est et ça rien. Fait plaisir à entendre,
oui,
vraiment.
Oui, et un tout petit mot, il y a un autre discours qui m'a beaucoup plu, qui est celui de d'Asma El-Moudir, qui a reçu le prix de la mise en scène pour La mère de tous les mensonges, qui pareil place, enfin qui se place en tant que femme réalisatrice, et l'extrait qu'on voit où sa grand-mère lui dit tu peux pas dire que t'es une réalisatrice, tu dis que t'es journaliste, parce que vraiment réalisatrice c'est un métier de pute, vraiment j'ai trouvé que c'était très beau qu'elle dise regarde mamie, là je peux te le dire, je suis réalisatrice et je suis reconnue, et je trouve qu'en fait c'est encore un vrai sujet d'être réalisatrice, d'être une femme au Festival de Cannes, on l'a vu cette année, et donc vraiment je trouve que un certain regard a su avoir une sélection et des prix très justes, très forts politiques.
Simon.
Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, donc je vais pas vous paraphraser. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un problème, une problématique actuellement pour UCR, pour Un Certain Regard. C'est que jusqu'à tout récemment, cette sélection, qui est une sélection de très très grande valeur, en gros l'idée, c'est qu'il fallait vraiment prendre son appellation au sens littéral. C'était Un Certain Regard, différent de la compétition officielle, quand même c'est la sélection officielle, hein, c'est la plus grosse, la plus importante historiquement, sélection parallèle de Cannes. Eh bien en gros, son idée, sa vocation, c'était de proposer un certain regard, notamment plus radical et donc peut-être plus fragile qu'il vaut mieux ne pas mettre en compétition, bah sur plein d'autres cinéphilies, d'autres pays du monde, des problématiques que nous n'abordons pas toujours. Le souci, c'est que avec l'adjonction des séances de minuit, puis des séances spéciales, aujourd'hui de Cannes Première, c'est de plus en plus compliqué, et puis la montée en puissance de la semaine de la critique, de la quinzaine des réalisateurs, c'est de plus
cinéastes.
En plus... Oui, pardon, la quinzaine des cinéastes, merci de me reprendre. C'est de plus en plus compliqué de définir exactement quelle est la spécificité d'un certain regard. Et c'est là aussi où il y a un peu de frustration, c'est-à-dire que le Monia Chokri, mais également le Thomas Caillé, c'est-à-dire Simple comme Sylvain et Le règne animal, sont d'excellents films que nous avons adorés, sont des films qui sont presque trop gros. Nous, on comprend pas bien ce qu'ils font à Un Certain Regard. Ils devraient être en séance spéciale à minuit, en hors compète ou en compète. Mais c'est pas du défrichage de cinéma radical, c'est pas un nouveau regard. On peut pas dire ça. Et donc, pour moi, un des grands défis, et ce que montre, en fait, le palmarès de cette édition, parce que typiquement, pour moi, le palmarès qu'on a vu, c'est un palmarès qui pourrait être aussi bien celui de la quinzaine des cinéastes que celui de la semaine de la critique.
Oui.
Attention, ce sont de très bons films, hein. Je critique pas du tout les choix de films. Ce sont d'excellents films. Je suis ravi de les voir mis en avant. Mais en tout cas, le festival va devoir se poser la question, éditorialement, de comment placer, replacer Un Certain Regard et les prix afférents pour que chaque sélection ait encore sa raison d'être.
Donc je vous rappelle le palmarès, prix Un Certain Regard, How to Have Sex de Molly Manning Walker, prix de la Nouvelle Voix Augure de Balogi, prix d'ensemble La Fleur de Buriti de Joao Salavisa et René Nader Messora, prix de la Liberté Goodbye Julia de Mohamed Kordofani, prix de la mise en scène Asma El-Moundir pour La Mère de tous les mensonges, et prix du jury L'Émeute de Kamal Lazrak. Un mot encore, puisqu'on a également le palmarès de la quinzaine des cinéastes, dont on va pas pouvoir vous dire grand chose puisque ce sont des films qu'on a ratés, moi un que j'ai raté, enfin qu'on n'a pas vu, et donc moi un que j'ai raté que je voulais essayer de voir mais j'ai pas réussi, c'est le Creatura de Hélène Martin Jimeno, qui est donc l'une des scénaristes d'une excellente série qui s'appelle Veneno, qui fait là son premier long métrage. Elle reçoit le prix Label Cinéma Europa, et le prix SACD a été décerné à Un Prince de Pierre Creton, qui est manifestement un très beau film sur une histoire d'amour homosexuel au troisième âge. Voilà, est-ce que vous avez un commentaire quelconque, Simon ?
Oui, je peux dire que c'est quand même un crève-cœur sur Creatura, parce qu'on a essayé, hein, avec Nicolas,
on a essayé, on voulait vraiment y aller, on a pas réussi, il y a une séance,
on ne pouvait pas, on avait un film qu'on ne pouvait pas non plus louper en face, il y a une autre séance, on l'a oublié, il y a une autre séance, on avait bu, bref, on a tout donné et on n'a pas réussi à le voir. Non, je plaisante, parce que
j'ai pas vraiment une goutte d'alcool.
Moi je parlais d'eau évidemment.
Oui, bien sûr.
Et enfin, juste pour dire un mot sur Un prince de Pierre Creton, c'est un film qui est assez singulier et intéressant. Moi je suis très curieux de découvrir parce qu'il a été fabriqué selon des principes de travail collectif qui sont assez rares, c'est-à-dire écriture à plusieurs collectives, choix de décision sur la mise en scène, le découpage, la direction des comédiens et le montage également à plusieurs avec les différents chefs de poste. C'est-à-dire que le film qu'ont découvert certains festivaliers et que nous on découvrira, on espère bientôt, c'est un film qui a été créé à plusieurs et donc qui bat un peu en brèche le système traditionnel de création des films.
Voilà pour la quinzaine des cinéastes que vous allez pouvoir retrouver, et ça se trouve sur le site quinzaine-cinéaste.fr dans des salles partenaires à peu près partout en France pour pouvoir voir le palmarès et une partie des films projetés. Un dernier mot. Ah bah oui, non, mais bien sûr, sur le palmarès de la compétition. Réponse, bien, c'est ce soir à 20h30 pour la cérémonie de clôture. On vous tient évidemment au courant en direct sur nos réseaux sociaux et avec un dernier épisode demain, avec des commentaires à chaud, à froid, à tiède, à distance, si loin, si proche, loin des yeux, loin. Bon, bref. On va faire un épisode un peu particulier parce qu'on ne sera pas tous là, donc on va vous monter un petit truc pour vous donner quand même des réactions.
Et puis, en l'occurrence, Sophie et moi, on sera toujours sur Cannes au moment du palmarès, donc on va inviter des gens. Donc vous aurez des nouvelles voix autour de ces micros, là, tu vois, de marquer un peu le coup.
Dès qu'on a le dos tourné, ils nous remplacent. Hein.
T'inquiète. Demain, on fera notre podcast palmarès. Okay,
on l'appellera comment?
Réalisé sans les pieds.
Ou les muscles et la palme.
Oh.
Allez, une petite dernière lecture. Puisqu'il faut finir notre épisode, comme chaque jour, par une lecture d'un livre. Lequel, savez-vous? On va peut-être vous laisser deviner vous-même l'extrait que nous allons vous lire.
Ce qui a été complexe à gérer pour moi, c'est d'avoir été doté par la nature de capacités physiques bien supérieures à la moyenne. Cela m'est tombé dessus, alors que je n'avais rien demandé, et j'ai longtemps eu du mal à m'en accommoder. Même si j'ai toujours eu conscience que c'était un atout plutôt qu'un handicap. À la frontière entre l'adolescence et l'âge adulte, j'étais un jeune homme très costaud, avec une structure que je croyais alors incassable. Au moindre effort, je faisais du muscle, en deux temps, trois mouvements, de sorte qu'à 20 ans, j'avais un physique qui n'engageait pas à me chercher querelle. Je ne souhaitais évidemment pas faire peur, mais la réalité, c'est que j'ai dû composer avec cette crainte quasi animale que provoquaient ma taille, ma carrure et ma voix. J'ai compris bien plus tard, lors d'une mission en Afrique, sur quel ressort reposait cette peur physique en observant le comportement des grands singes entre eux.
Oh putain,
c'est le pire de tous.
Ah non, mais
c'est le pire
incroyable.
Extrait de tous.
C'est-à-dire que non seulement le mec est rassos, mais il est limite eugénisto-nazi, quoi.
C'est alors, incroyable.
Moi j'étais un arien, les gars. Et
j'étais désolé que ça fasse peur aux autres.
Moi je suis allé me prendre des gorilles en one-to-one, quoi. J'ai pris des gorilles en octogone dans la jungle africaine, quoi.
T'as jamais fait un bras de fer avec un gorille? Moi je leur pétais les métacarpes, mon gars, en les regardant.
Ah, quel enfer.
C'est incroyable.
Didier Raoult, qui a sobrement intitulé son autobiographie Autobiographie.
Et alors, ce qui pose une question tout de même, il faut le dire, parce que les auditrices et les auditeurs de Résilier sans trucage ont le droit de le savoir, le livre de Bruno Le Maire a disparu.
Mais oui, quelqu'un
a disparu. Genre, il a disparu, littéralement.
Je pense qu'il est venu le reprendre.
c'est les services secrets de Bercy qui sont venus, parce que, par ailleurs, rien n'a été volé dans l'appartement, il n'y a pas eu d'effraction, mais le livre de Bruno Le Maire a disparu.
Je pense qu'Arthur est en secret de reparti avec pour le lire soir et se taper les bonnes barres.
Il n'est pas reparti seul de Cannes, tu vois, il a quelqu'un pour lui aider à tenir dans la Twingo, il lui a dit « Vas-y, lis-moi Bruno, quoi.
» Quel enfer.
C'est la fin. Et du coup, est-ce que vous pourriez me filer les clés de la chaîne
après le
qui me retient en radiateur? Non, s'il vous plaît, j'ai des escarres là.
Il faut conclure d'abord,
bon,
Nicolas.
Allez, puis j'aimerais bien pouvoir changer de slip parce que ça fait deux semaines, il est tout cartonné. Bon, bref, allez, à demain pour un épisode sans moi puisque je suis libéré, délivré. Allez, bye les amis. Et plus que jamais, gloire à la liberté!
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.